Tout de suite, nous poursuivons avec Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Toi, y crois-tu à une possible victoire de l'Impact du côté d'Atlanta en fin de semaine?
Ben,
eux, c'est le cas c'est de le dire, là, c'est l'équipe de l'heure.
Oui, c'est ça, mais c'est la beauté du sport. Hein. Tout est possible, mais je pense qu'il faut être prudent. Je te rejoins entièrement dans ta lecture, Mario, que tu viens de faire de la victoire de l'Impact à Toronto. Je pense qu'il y a deux éléments très importants à ne pas oublier. Bon, ça n'enlève rien au mérite de l'Impact. Ils devaient obtenir les trois points. Ils les ont eu, bravo. Il en reste pas moins que Toronto, comme bien des équipes qui font face à un adversaire en difficulté, probablement que la préparation psychologique n'était pas au point. On a tendance à ce moment-là à prendre notre adversaire à la légère, à dire « Hey, à domicile, devant nos partisans, contre une équipe qui va mal, il y a eu de la chicane un peu, un vice-président est descendu dans le vestiaire, passé un savon aux joueurs, hey, ils sont pas là, donc on va les battre facilement. » Et on le sait, dans le sport professionnel, c'est pas comme ça que ça se passe. Une équipe peut rebondir. Donc, ce facteur-là, puis bien sûr, l'absence de Giovinco et Altidore, là, les deux canons offensifs du Toronto FC. Alors, ça change complètement la donne. Maintenant, l'Impact a gagné cette rencontre-là. Bravo. Mais moi, je ne m'emballe pas outre mesure avec ce gain-là. Je pense, par contre, que s'il gagnait en fin de semaine contre Atlanta, à Atlanta, après avoir gagné quand même à Toronto, ça, là, oups, on commencerait à parler plus sérieusement.
Oui, c'est sûr. Est-ce que, par ailleurs, t'es emballé parce que tu vas au camp d'entraînement du Canadien?
Bon, écoute, il y a bien des gens là, qui disent le Canadien a perdu ses trois matchs, il faudrait qu'il se mette à gagner et tout.
Le monde est sur le nerf. Hein?
Ben oui, il faut en prendre puis en laisser. Moi, je vais te raconter une histoire. Je me souviendrai toujours une année où je couvrais le camp d'entraînement des Expos à West Palm Beach, puis Philippe Allou était le gérant des Expos. Puis là, les Expos avaient perdu 3-4 matchs consécutifs, des matchs pré-saison. Puis là, ça commençait à brasser un peu les journalistes, puis tout ça. Puis on était rentré dans le bureau de Philippe après le match, puis quelqu'un avait posé la question là-dessus, puis Philippe était parti à rire en disant « Hey, les boys, là, arrêtez avec les matchs pré-saison. C'est fait pour évaluer les joueurs, surtout quand on est au début. Ça n'a rien à voir avec la saison. » Puis je me souviens qu'il avait dit quand même que vous auriez une équipe qui va gagner tous ses matchs pré-saison. Pensez-vous que ça veut dire qu'elle va gagner ses 10 premiers matchs en saison régulière ou ses 15 premiers? Bien, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, on voit à l'heure actuelle des moitiés d'équipe. Le résultat des rencontres du Canadien, oubliez ça, c'est vraiment pas important. Maintenant, ce qui est important, c'est le rendement des jeunes. Et hier, je pense qu'il faut dire chapeau à Claude Julien, Mario, qui, oui, après le match, a fait preuve de transparence.
Il a été complaisant, lui.
Ah, j'ai trouvé ça admirable, à quelque part, qu'il soit oui, aussi précis. Écoute, quand il a dit qu'il y a des joueurs qui rendent nos décisions faciles, là, c'était pas un compliment qui venait de servir à sa relève. Bien au contraire. Alors, j'ai aimé qu'il soit aussi direct. J'ai aimé qu'il soit aussi franc. Ça, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant. Mm-hmm. Maintenant, bravo pour le constat, mais le constat, par exemple, il signifie quelque chose et c'est l'échec de la relève du Canadien. Pas de toute la relève, parce qu'il y a peut-être une autre génération de relève, là, si on compte de courtes générations.
Oui,
là,
oui, oui.
Mais ce que j'appellerais le groupe sur lequel le Canadien a bâti des espoirs. Et dans ce groupe-là, on retrouve essentiellement peut-être 5 noms. Sergachev a été échangé. Jolson, il est blessé maintenant. Et les trois autres, c'est McCarron, Delarose et Sherbach. Alors, bon, plus de Sergachev, mais ça a permis d'obtenir Drouin. Donc, certainement, un très bon élément pour le Canadien. Jolson, ben là, il a été malchanceux. Il y a eu plusieurs blessures. Il y a eu des commotions cérébrales. Là, une autre blessure, cette fois-ci, c'est le genou, je pense. C'est le genou? Non, c'est pas le genou. C'est,
en tout cas, là, oui, c'est le pied fracturé parce qu'il est bloqué.
Voilà, exactement. Donc, il va rater 6 semaines. Alors, on verra comment il va pouvoir se revenir de tout ça. Mais les trois autres, là, tu te souviens, on en a parlé, toi et moi, avant le début du camp d'entraînement. Moi, je te disais qu'à mon avis, il fallait qu'un des jeunes réussisse à s'imposer, qu'un de ces joueurs-là qu'on attendait un peu moins, qui montre que chez le Canadien, on est capable de développer des joueurs. Et ça ne s'est pas produit. Puis c'est dommage parce que, souviens-toi des débuts de Delarose. Hein? Tu te souviens, un bout de temps, Michel Therrien était vraiment emballé par son jeu. Il jouait, tu sais, avec beaucoup de maturité pour un jeune joueur. Puis on a cru qu'il pourrait devenir un vrai joueur de la Ligue nationale. McCarron, c'est une situation différente, mais un gros gars comme lui, on sait qu'il avait un certain ascendant sur des jeunes coéquipiers. Il était assez leader et tout. Donc, il avait certainement une capacité d'aller de l'avant, mais lui non plus, ça ne s'est pas matérialisé. Puis Sherbak, ben, contrairement à tous les espoirs qu'on a placés en lui, le joueur habile qui va être capable en attaque de faire des choses, lui, vraiment, c'est la panne sèche et ça, c'est ouais. assez triste. Alors donc, c'est l'échec de ce groupe-là, de ces trois-là. Et ça, c'est pas bon pour le Canadien parce que ça signifie aussi que, bon, ça peut être les trois joueurs qui sont pas de calibre pour la Ligue nationale, mais il y a peut-être aussi un problème dans leur développement.
Ben, certainement. Ben écoute, ça dépend parce que tu vois, j'ai beaucoup réfléchi à ça aussi cette semaine. Puis prends Hudon à l'inverse. Puis ouais. tu sais que j'étais très sévère sur le repêchage du Canadien, tout ça. Lui prouve, en arrivant à 23 ans, que peut-être que du côté du développement, il se passe quelque chose s'il arrive comme ça puis il est en mesure de s'imposer en début de camp d'entraînement. Ce qui me fait
bon
dire,
point.
Ce qui me fait dire, tu n'extrais pas de l'eau d'une roche, Philippe. et à un moment donné, on donne des breaks à des gars qui ont le gabarit. Puis les gars qui ont le talent, ils attendent leur tour, ils se développent plus longtemps, puis peut-être que c'est la bonne chose pour Charles. Mais tu sais, regarde ça, l'échec. Dans le cas de Sherbak, je vais attendre une autre année, lui, à partir de ce que Hudon vit en émergeant à 23 ans. Puis Sherbak a manqué bien des matchs à cause de nombreuses ouais. blessures, lui aussi. Peut-être qu'il a besoin de cette autre année-là. Puis là, ben, je vais être un peu plus incisif dans mon évaluation du gars. Mais
il en reste pas moins, Mario, que
ah non,
ces
c'est
gars-là.
Pas un ballant,
là,
c'est sûr.
Ces trois gars-là, ils savaient que le camp d'entraînement était primordial pour eux. T'sais, tu sais, prends juste comment Hudon a parlé. T'sais, Hudon, il a dit qu'il oui. s'était entraîné comme jamais, qu'il savait que c'était le temps ou jamais de faire bonne...
Il a compris.
Il est arrivé puis il a montré quelque chose à l'organisation. Je ne sais pas si les autres ont fait la même chose, mais chose sûre, c'est un peu décevant parce que t'sais, ils arrivent avec un nouvel entraîneur. Là, au fond, Claude Julien, c'est un nouvel entraîneur. C'est le premier camp d'entraînement qu'il dirige avec le Canadien à son deuxième séjour derrière le banc. Donc, ils ont une nouvelle chance de faire une première impression. T'sais, de montrer aux nouveaux coach, regarde, là, on est capable de faire quelque chose de bien, et il la rate.
Il me semble d'avoir McCarron déjeuner avec De La Rose un matin, là.
Ouais,
avec connaissance.
Hey, des commentaires du coach la veille, là, tu dis, ouh, ouais, hey, ça regarde, ça, y a-tu des appartements loués à Laval, là?
Le cadran de sonner, tu sais, c'est comme, wake up. Écoute, Philippe, on a, tu sais qu'on avait juste deux émissions, là, et on est un petit peu compressé ce soir, mais on reviendra peut-être en quelques mots, Calgary, le dossier de l'aréna, là.
Ouais,
c'est pourquoi construire un aréna seulement, tu sais, dans le fond, Centre Bell est quoi, 10-15 ans plus jeune que le Saddle Dome?
Mais là, tu sais, c'est parce qu'on dit que c'est le plus vieil amphithéâtre de la Ligue nationale. Bon, dans ceux qui n'ont pas été rénovés. Et puis, c'est toute une question de revenus. Mais ce qui est fascinant de voir, c'est vraiment la querelle entre la ville et les propriétaires des Flames. Là, les propriétaires des Flames ont mis une publicité dans les journaux cette semaine pour illustrer c'était quoi leur proposition. Tu sais, écoute, là, c'est un dialogue qui est vraiment mal entamé. Et quand est-ce qu'on aura un résultat, puis de voir où on s'en va dans la situation à Calgary? Je répète une date, c'est le 16 octobre, c'est la date de l'élection à la mairie. Si le maire actuel est réélu avec une forte majorité, c'est sûr que ça va conforter le dossier de la ville. En revanche, s'il est affaibli au vote ou même s'il perd, les propriétaires des Flames vont peut-être dire, ah, vous voyez, ça veut dire que les gens prennent pour nous dans ce débat-là. Alors, ça va être intéressant à suivre l'élection à Calgary. On va s'intéresser à ça au mois d'octobre.
Bonne fin de semaine, Philippe. Fais attention, c'est l'été, là.
Profite-en. OK, salut Mario,
bye bye.
Toi aussi, ciao.
T'en sens toi. On revient dans un instant avec les commentaires de Danny Dubé. Est-ce qu'il y a des gars qui sortent de l'alignement? Est-ce qu'il y a des gars qui cognent à la porte plus sérieusement que les autres? On va regarder ça avec lui.